VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Lyon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'ex-ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Oli Ilunga, a été inculpé hier pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte anti-Ebola. Cela sur fond de deuxième épidémie la plus grave de l'histoire et de rivalité avec le président Félix Tshisekedi. Le docteur Oli Ilunga, 59 ans, a été placé en résidence surveillée à Kinshasa après une journée d'audition au parquet, selon son avocat Guy Kabeya, qui a fait savoir, je cite, que l'instruction du fond du dossier continue. Monsieur Ilunga, médecin en Belgique, avant d'être ministre, avait été interpellé samedi par la police, accusé de vouloir gagner l'étranger. Il était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire national. Au Congo-Brazzaville, la ministre de la promotion de la femme, Inès Defer Ingani, a été démise de ses fonctions après la divulgation sur les réseaux sociaux de la remise d'une importante somme d'argent au chef de file de l'opposition par les services de la présidence. Selon certaines sources, la ministre Ingani aurait favorisé cette publication. À Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin fait le point.
Dans le décret qui démet Inès Nefer Ingali de ses fonctions, le président de la République n'en souligne pas la cause. Mais la semaine dernière, le chef de file de l'opposition, Pascal Tatsema Diala, et son parti, l'UPADS, avaient réclamé sa tête, menaçant de la traduire en justice pour propos diffamatoires. En effet, une conversation téléphonique qui impliquerait la désormais ex-ministre de la Femme et un jeune cadre du PCT, le parti au pouvoir, dévoilait que le chef de l'opposition avait reçu d'importantes sommes d'argent de la part de la présidence de la République. Conséquence, le chef de l'État et son premier ministre n'ont pas hésité de faire partir la ministre qui est par ailleurs députée à Brazzaville. Nefer Ingani n'a pas eu de la chance car quelques mois avant, une autre conversation téléphonique impliquant une ministre et un officier supérieur de la police s'était retrouvée sur les réseaux sociaux mais sans coûter un quelconque poste. De la mémoire récente de la politique du Congo, jamais un ministre n'a été viré du gouvernement, fut-il par décret présidentiel. C'est toujours par remaniement ou réaménagement que les ministres, même démissionnaires, quittent le gouvernement. Le cas Ingani est donc emblématique et devrait interpeller sur le fait que les réseaux sociaux sont en train de devenir une arme politique très redoutable au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En Tunisie, le second tour de la présidentielle va opposer l'université indépendant Kais Saied à l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui, d'après les résultats publiés par l'instance électorale. Le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, est arrivé troisième. Les deux candidats en tête ont fait campagne en s'appuyant sur le sentiment de rejet par les Tunisiens de la classe politique aux commandes depuis la révolution de 2011. Pour une analyse, Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami. Il est rédacteur en chef du journal Le Quotidien à Tunis.
Comment expliquer cela? Ben, tout bonnement, le peuple tunisien sanctionne les gouvernants pour la bonne raison qu'ils n'ont pas réussi à accomplir les objectifs de la révolution tels qu'ils ont été conçus et prévus par cette population. Celui qui ne réussit pas, il n'a qu'à quitter. Les Tunisiens veulent faire valoir leur choix, veulent réussir leur révolution.
Mais maintenant, est-ce que les deux qu'ils ont choisis, Kais Saied et Nabil Karoui, est-ce qu'ils pourront répondre aux attentes face aux défis de la pauvreté, les défis du chômage qui avaient enflammé la Tunisie avant 2011, notamment à Sidi Bouzid?
Deux volets dans ma réponse. D'abord, le régime tunisien est un régime parlementaire. Donc, du coup, la fonction constitutionnelle du président de la République, c'est surtout une fonction de sécurité, une fonction de diplomatie, de représentation de la Tunisie à l'échelle internationale, pas une activité socio-économique. Donc, sur ce plan-là, non, c'est pas la fonction du président de la République d'assurer ses objectifs de la révolution.
Et Ennahda dans tout ça, qui avait remporté les élections législatives, et le parti Nida Tounes dans tout ça, alors?
Ennahda, c'est le vice-président de l'Assemblée, c'est un Nahzaoui. Le Abdel Fattah Mourou, qui est venu troisième, est un Nahzaoui. Donc, Ennahda est sanctionné. Par contre, tout comme Nida Tounes est divisé en 5 ou 6 partis, et qui, représentant dans les présidentielles, il y avait 5 ou 6 Nida Tounes, et qui ont échoué tous. Ennahda a régressé. Le public d'Ennahda était 1 500 000 en 2011. Il est devenu 800 000 dans les élections de 2014. Et dans cette élection, il ne sont que 350 000. Donc Ennahda a été rouillé, si j'ose dire, par le système. L'islam politique a été rouillé par la démocratie.
Notre confrère Mourad Selami, rédacteur en chef du journal Le Quotidien, à Tunis. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a estimé mardi que l'accord de Paris sur le climat n'avait pas encore échoué, mais que le temps était compté pour éviter la catastrophe climatique. Samedi, Antonio Guterres va accueillir un sommet de la jeunesse sur le climat à New York, à l'ONU. Puis lundi, un sommet spécial climat avec des chefs de gouvernement et d'État appelés à revoir leurs engagements à la hausse pour limiter le réchauffement du globe à 1,5 degrés Celsius ou 2 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle au 19e siècle. Le risque d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord reste très réel, a averti aujourd'hui le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à 6 semaines de la date prévue du Brexit. Ce sera peut-être le choix du Royaume-Uni, mais jamais le choix de l'Union européenne, a dit M. Juncker dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, 2 jours après une rencontre infructueuse avec le premier ministre britannique Boris Johnson à Luxembourg. Il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier, a prévenu pour sa part le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, le français Michel Barnier, une critique voilée qui pourrait viser Boris Johnson, accusé dans son pays de manquer de sérieux dans les négociations. À Washington, il est 7h07.
Nos infos sur voaafrique.com.
Direction Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz sont à égalité dans l'incapacité de former un gouvernement de coalition après dépouillement de la quasi-totalité des votes législatifs de mardi, indiquent aujourd'hui les médias israéliens. Après plus de 92% des bulletins dépouillés, les partis des deux rivaux obtiennent chacun 32 sièges sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien, et ne parviennent pas, donc, même avec leurs alliés respectifs, à franchir le seuil des 61 députés pour obtenir la majorité. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif a accusé hier les États-Unis d'être dans le déni de la réalité lorsqu'ils accusent Téhéran d'être responsable des attaques revendiquées par les rebelles yéménites contre des installations pétrolières saoudiennes et Kiabadou.
Les États-Unis sont dans le déni s'ils pensent que les victimes yéménites des pires crimes de guerre ne feraient pas tout pour riposter, a écrit sur Twitter M. Javad Zarif. Samedi, les rebelles yéménites houthis ont revendiqué des attaques contre 2 installations pétrolières en Arabie saoudite. Washington affirme que ces attaques ont été lancées depuis l'Iran avec des missiles de croisière sans fournir de preuves pour appuyer ces accusations. Le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdel Aziz Ben Salman, a assuré hier soir que son pays ne sait pas qui est derrière ces attaques. En visite au Caire hier, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dit aussi que Paris ne savait pas d'où venaient ces attaques. Le président Donald Trump, qui n'avait jusqu'ici pas écarté la possibilité d'un entretien avec le président iranien Hassan Rouhani, a dit hier qu'il préférait ne pas le rencontrer lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Auparavant, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait exclu toute négociation avec Washington.
Et le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est à Jeddah pour discuter de la réponse aux attaques contre les installations pétrolières saoudiennes, alors que les États-Unis sont convaincus qu'elles ont été lancées depuis l'Iran avec des missiles de croisière. L'administration américaine prépare un dossier pour prouver ses dires et convaincre la communauté internationale, notamment les Européens à l'Assemblée générale de l'ONU, la semaine prochaine. Les talibans se sont dit prêts, eux, à reprendre les négociations de paix avec les États-Unis 10 jours après que le président Trump les eut déclarés mortes et au lendemain de 2 attentats sanglants en Afghanistan qu'ils ont revendiqués. Le 7 septembre, Donald Trump avait, à la surprise générale, mis fin aux discussions engagées depuis un an avec les talibans qui semblaient pourtant sur le point d'aboutir à un accord historique. Après 18 ans de conflit en Afghanistan, le président américain avait justifié se volte-face par la mort d'un soldat américain. Jean-Roger Bion à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.